Très heureux de vous apporter la méditation de ce matin. J'aimerais continuer dans la série que j'ai commencée. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette série où on est appelé à annoncer l'évangile au-delà de nos murs. Et j'avais un message et Dieu m'a demandé de changer. Mais ça va toujours dans le même thème, mais il m'a dirigé sur notre texte et je pense que je vais préférer lui obéir que me dire qu'est-ce que... Un jour, je devrais rendre des comptes de tout ce que j'ai dit. Donc, je me dis, OK, Seigneur, OK. J'avais préparé quelque chose de bien, mais je vais faire autre chose. Je vous invite donc à lire un texte qu'on va lire ensemble, mais j'aimerais dire deux, trois mots d'introduction avant de lire ce passage. Ce texte parle du ministère de Jésus et on est au début de son ministère, donc en Galilée. Là où il a grandi, hein, Jésus, au bord du lac de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Génézareth ou le lac de Tibériade, qui a plusieurs noms. Et il commence à manifester son ministère, alors que ça fait 30 ans qu'il est là, qu'il a vécu avec ses parents, qu'il a grandi dans cet environnement, dans ce lieu. Et voilà qu'il manifeste son ministère. Après son baptême, il commence à prêcher l'évangile. Et avec autorité, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des personnes qui sont touchées. Et juste pour vous montrer peut-être un peu visuellement où ça se passe, donc on a ici le lac de Galilée, donc au nord d'Israël. Et si on zoome un peu, voilà, on voit les villes un petit peu où Jésus a grandi. Donc Jésus de Nazareth, Génézareth ici, c'est traduit différemment. On voit qu'il y a Tibériade ici, on voit qu'il y a Capernaum ici, Chorazim, Bethsaïda, des noms qu'on a entendus, que Jésus a prononcés. Et c'est important que, premièrement, de se dire que Dieu nous appelle, même si c'est Jésus, le Fils de Dieu, là où on a grandi, là d'où on vient. Dieu ne nous appelle pas tout de suite à aller vers l'autre bout du monde. Il nous appelle à parler à ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Jésus va faire au début de son ministère. Il va commencer à parler là où il a grandi, déjà dans la synagogue où il a grandi, où les gens l'ont vu. C'est là qu'il va ouvrir ce rouleau, c'est là qu'il va parler. Et c'est là qu'il va recevoir aussi un accueil pas très chaleureux. Parce qu'on va dire, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas le fils de Marie qu'on connaît depuis tout petit, qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà que Jésus reçoit vraiment pas un très bon accueil. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase qui dit que nul n'est prophète dans son pays, ça vient de là, qu'on utilise encore aujourd'hui comme un leitmotiv. Mais voilà donc que Jésus va annoncer d'abord dans sa ville, et après, dans les villes aux alentours, Capernaum, par exemple. Et là, il va être reçu dans la maison de Pierre, Capernaum. Et là, il va aussi guérir des gens. Là, son message va avoir plus d'impact. D'ailleurs, il va commencer déjà par guérir les gens les plus proches de lui, la belle-mère de Pierre, qui dit qu'il était malade. Et il l'a guérie. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une blague à ce sujet. Vous la connaissez? Vous ne la connaissez pas? On se dit, mais pourquoi Pierre a trahi Jésus? Il en voulait tellement, parce qu'il avait guéri sa belle-mère. Voilà. Bon. C'est pas très sympa. Hein. Toutes les belles-mères sont pas... Tout va bien. Je ne sais pas si c'était le cas. C'était juste le cœur de Jésus qui l'a guéri, bien sûr, et qui les a servis, après il les dit. Et voilà qu'après, il y a des gens qui sont venus devant la maison de Pierre et qui sont venus apporter les paralytiques. Il a commencé à guérir, à prêcher l'évangile devant la maison de Pierre. Et c'était le soir jusque peut-être dans la nuit même. Il y avait beaucoup de besoins, une foule était là. Et il y a des gens qui étaient aussi libérés d'emprises démoniaques. Il est dit, donc, voilà, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Jésus répond à tous les besoins, physiques, psychiques et spirituels. Alors, lisons maintenant, après ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est notre texte. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, ou que j'ai été envoyé selon les traductions. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Alors, essayez de vous imaginer le contexte. On vient de vivre une grande campagne d'évangélisation où on est allé, ou peut-être même on est allé en mission avec Frontiers dans un pays non atteint par l'évangile, avec toute une équipe internationale de Suisses, de Suisses allemands et de Français. Vous imaginez le miracle déjà. Donc, et voilà que vous avez, il s'est passé des choses pendant 4 semaines, vous avez vraiment, vous avez vu l'action de Dieu, les gens ont été touchés, les gens ont été guéris, vous avez annoncé l'évangile, vous êtes heureux, parce que c'est la chose la plus importante qu'on peut faire. Vous rentrez de ce voyage missionnaire, contre-coup, hein, fatigue, vous pouvez demander à Mathurin, Salomé, Baptiste, tout ça, fatigue, mais repos bien mérité. Et là, le matin, tout le monde fait la grâce matinée. Les disciples, les gens qui ont été guéris, ceux qui dorment là, ceux qui ont... Voilà, tout le monde dort, mais Jésus... alors qu'il fait encore nuit, lui se lève. Et il cherche la présence de son Père. Il prend un temps à part. Il n'y a pas de bruit. C'est le moment le plus calme. Tout le monde dort. Et c'est le premier point que j'aimerais relever. Chaque fois, je vais mettre le parallèle dans l'évangile de Luc. Ça nous donne un peu plus de contexte aussi, d'autres éléments. Nous avons besoin, dans nos vies intenses et passionnantes, que ce soit dans notre travail, bien sûr qu'on fait tout avec Dieu, dans notre vie intense, dans tout ce qu'on vit, nous avons besoin de temps d'arrêt et de temps de désert. De temps de désert. Parce que c'est ce qui est écrit dans Luc. Dans un lieu désert. Le mot désert, c'est midbar en hébreu. Dans le mot, dans ce nom, il y a une racine hébraïque, dabar, davar, qui signifie parler, qui est la parole. Quand il dit la parole de Dieu, c'est davar. Le désert, c'est le lieu où Dieu parle. Et la voix de Dieu ne s'impose pas. Par contre, il y a d'autres voix dans nos vies. La voix de tout ce qu'on entend, tout le bruit, tout le brouhaha, toute notre attention qui est accaparée par, pas seulement les réseaux sociaux, mais par pléthore de choses. Et après, quand ces voix s'arrêtent, il y a nos voix, notre chair qui parle, plus fort des fois que la voix de Dieu. Notre chair, elle parle fort. Des fois, même notre émotion parle fort. Mais ce n'est pas la voix de Dieu, forcément. Et voilà que par moments, il faut faire taire toutes ces voix-là pour entendre la voix de Dieu. Alors, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous utiliser dans l'action. Justement, quand on annonce l'évangile, quand on est peut-être... Des fois, il y a des paroles de connaissance qui viennent, des paroles de sagesse qui peuvent arriver alors qu'on est en pleine discussion, alors qu'il se passe des choses, on est dans l'action. Mais si on a des décisions à prendre, savoir où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la prochaine étape, pour entendre Dieu, nous avons besoin de nous retirer, de ne pas être dans la précipitation. Nous avons besoin de dégager de l'espace, de prendre du temps. Et je l'ai réalisé dernièrement parce que j'ai été arrêté pendant quelques semaines quand même. Pendant 3 semaines, j'étais totalement à l'arrêt. Et j'avais ce sentiment au début, j'allais reprendre, quoi, comme si rien n'était. Et il y avait cette envie parce qu'on est tellement dans une vie à 200 à l'heure, que ce soit ministérielle, familiale et tout ce qu'on a, que je me suis dit, ok, c'est juste un petit arrêt et ça va repartir. Mais non, en fait, l'arrêt était plus long. Et là, on doit vraiment tout arrêter. Et il y a tout qui s'arrête. Vraiment tout. Tout qui se coupe. On ne peut pas beaucoup sortir de chez soi, donc vraiment, rien qui se passe. Et là, ça m'a permis de mieux réfléchir. Ça m'a permis de mieux penser, de prendre du recul, de mieux prier, d'être dans le silence et de recevoir des directives. Ne prenez jamais de décision importante dans votre vie, de changement d'orientation, de direction, qui ont des conséquences dans la précipitation et quand vous êtes fatigué. Ça m'a fait tellement du bien d'être au repos. Juste, au début, c'était que pour moi, et après, c'était avec le Seigneur, il s'est passé des choses. C'est tellement important que même Jésus, qui est Dieu, le fait. Jésus prend ce temps avec son Père, se retire dans un lieu désert. Mais qu'est-ce qui se passe? Assez vite, il y a la foule qui recherche Jésus. Ils se sont réveillés, ils ont pris un petit déjeuner, tout le monde dit, oh, on va recommencer l'expérience, c'est incroyable ce qu'on a vécu hier, il faut qu'on continue. Et voilà que la foule recherche Jésus. Dans notre texte, d'abord, il est dit que Simon et ceux qui l'accompagnent, donc c'est plus les disciples dans Marc, et dans Luc, c'est plus la foule. Donc on voit qu'il y a vraiment une sorte de concomitance de personnes qui cherchent Jésus. Et certaines traductions utilisent qu'ils poursuivirent Jésus. Poursuivirent, donc vous voyez, c'est... Mais Jésus, en fait, il aurait pu rester là une semaine, tellement il y avait de choses à faire. Il aurait pu rester là deux semaines, il aurait pu rester là un mois, une année. Les besoins sont tellement nombreux, la foule cherche à accaparer Jésus presque même, presque à l'enfermer dans ce lieu où il est maintenant. Parfois, nous pensons que nous devons répondre à un besoin. Et le danger, c'est de ne pas consulter le Seigneur et de tout simplement continuer à répondre aux besoins. Il manque ceci, il manque cela. Je connais même des ministères qui sont partis en mission pour répondre à des besoins. C'est quand même une grande décision, quand même, de partir en mission. Je pense, dans les années 60, 70, les années de mes parents, qui m'ont beaucoup parlé, il y avait vraiment beaucoup d'envois missionnaires, hein, tellement de besoins, c'était... On évangélisait l'Afrique, il y avait tout un mouvement, beaucoup de gens qui partaient, et il y avait tellement de monde qui partait que même ceux qui n'étaient pas appelés partaient pour répondre à des besoins. Et je me souviens une fois, ma tante, je ne sais pas si vous connaissez ma tante, Jacqueline Schwerzmann, une femme de caractère, une femme extraordinaire, et elle disait, il y avait une telle pression de partir, parce que c'était bien vu, parce que tout le monde partait, qu'elle avait dit... Bon, y a ceux qui ont reçu un appel pour partir, mais moi, j'ai reçu un appel pour rester. Elle disait comme ça. Pas évident de résister à l'appel du groupe, à l'appel de la foule, à l'appel de l'environnement. Pas évident, hein. Surtout, en plus, si c'est des choses louables. Et ce qui me frappe ici, c'est la réponse de Jésus. Allons ailleurs. Allons ailleurs. Mais vous imaginez, Jésus a dit non. Non, mais vous imaginez ce que Jésus vient de faire ? Il a dit non à sauver des gens, à répondre à leurs besoins, à continuer à prêcher l'Évangile. Jésus, vous imaginez la violence de ce qui se passe. Dans une société de plus en plus performative, de plus en plus, on cherche... La performance, le résultat, plus que jamais aujourd'hui, c'est difficile de dire non. Vous êtes d'accord ? On en parlait d'ailleurs hier, on a eu une très belle rencontre des hommes, c'était magnifique, et je parlais avec un frère qui disait que dans son travail, il a l'impression qu'aujourd'hui on fait toujours plus avec moins de moyens. C'est vrai, hein, c'est une pression qui est là, et puis des fois, ben, en plus on est chrétien, donc on veut que ça se passe bien, alors on va encore prendre... Il disait, je prenais des mandats, et puis... Mais où est la limite ? Et à un moment donné, on s'oublie presque un peu, et voilà qu'on est limité, en fait. On est limité. Nous ne sommes pas appelés à répondre à tous les besoins. Jésus, qui est Dieu, décide de ne pas répondre à tous les besoins. Parce que Jésus... Il est limité. Seul Dieu est illimité. Vous êtes d'accord ? Dieu s'est incarné en la personne de Jésus, mais qui a besoin de... Peut-être, je ne sais pas combien d'heures de sommeil avait besoin Jésus. Peut-être besoin de 7 heures, de 8 heures, peut-être de 9 heures, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures. Il y en a qui dorment 10 heures, mais ils ne dorment que 5 heures sur les 10 heures. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout aujourd'hui. Mais je me demande combien de temps Jésus avait besoin, parce que Jésus avait des limites. Pourquoi il y a beaucoup de burn-out parmi les ministères ? Parce qu'on peut toujours en faire plus. Et on le voit dans le ministère, c'est sans fin. On peut toujours visiter plus. On peut toujours améliorer la communication. On peut toujours enseigner plus. On peut toujours... ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de limite. Tout est faisable. Tout est envisageable. Mais le temps est limité. Et des fois, les moyens financiers sont limités. On aimerait faire plus, mais on a moins de moyens. On pourrait engager plus de ministères, mais il y a moins. Et je me dis, c'est bon aussi pour nous, ça. C'est bon parce que ça nous oblige à dire non et à nous limiter. Et ce qui est intéressant aussi là dans l'exemple de Jésus, non seulement il ne répond pas aux besoins, mais ce qui nous renouvelle dans notre ministère, dans notre service pour Dieu, c'est surtout d'aller là où Dieu veut qu'on aille. C'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus reçoit une redirection d'aller ailleurs. Trop de personnes font des choses que Dieu ne leur a pas demandées ou subissent un cahier des charges qu'on ne leur a pas demandé. Même des pasteurs. On répond à un cahier des charges, mais qui ne correspond pas à la vocation que nous avons. Et ce décalage-là, vous savez ce que ça produit ? Ça produit de la fatigue. Ça produit parce qu'on n'est pas dans l'élément, dans le mandat que Dieu nous a demandé. Et c'est tellement important d'écouter Dieu et de répondre aux pressions que Dieu nous met et pas aux pressions des hommes et de la société et de la culture dans laquelle on évolue. Tellement important. Tellement important. Et on le voit que même Paul était conscient de sa place et de son mandat et de ses limites. Et il le dit à un moment dans Romains 15, verset 20, « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Il décide, voilà, si voilà, il a fini sa mission, il passe, il va ailleurs. Il se faisait un point d'honneur, savoir où il allait. Il devait aller là où l'Évangile n'avait pas annoncé. Et puis, dès que c'était fait, il partait ailleurs. Il ne restait pas pour répondre à tous les besoins aussi. Vous savez que dans les centres de formation pour les ministères, tout confondu en Europe, partout, en tout cas, je ne sais pas les chiffres hors Europe, m'ont dit que ceux qui font une formation théologique dans le but de servir le Seigneur, 50% arrêtent à la fin de la formation. 50%. Sur ce 50%, en tout cas dans le pastorat, ceux qui exercent le pastorat pendant 5 ans, au bout de 5 ans, 50% arrêtent. Et c'est tout chiffre confondu, c'est les chiffres officiels. C'est quand même fou, il ne reste pas grand-chose, hein, vous êtes d'accord. Et il n'y a jamais eu autant de besoins. Il y a une pénurie qui est là. Et je ne pense pas que c'est une pénurie de vocation, personnellement. Je pense que c'est un changement de forme ministérielle dans lequel on vit. Vous pouvez lire Pasteur 2.0, qui a été fait par le réseau évangélique suisse, en collaboration avec la HET Pro, qui parle de ça, justement. Ce changement, je crois qu'il y a vraiment des jeunes qui veulent se lever, mais il y a un changement de forme ministérielle, de cahier des charges, peut-être. Mais pour revenir à ce que Jésus fait, là, à ce moment, une des chose que Jésus fait, c'est pas seulement ne pas répondre aux besoins, et je pense que ce serait passé à côté du sens du texte, si on s'arrêtait là. Mais il ne répond pas à besoin parce qu'il y a d'autres besoins ailleurs. C'est ce qui se passe. Jésus ne pouvait pas rester là et répondre à tous les besoins qui étaient là. Il y avait d'autres besoins ailleurs. Voilà pourquoi il est redirigé par son Père à aller ailleurs. Et c'est là dernière pensée que j'aimerais vous partager, c'est on est invité à aller plus loin et à ensemencer, je reviendrai dessus. Jésus nous invite à aller vers les autres. Ici, on voit qu'il est invité à aller prêcher, on voit dans d'autres endroits, d'autres lieux, dans la Galilée. Et Jésus nous invite à suivre son exemple. Il nous dit qu'il y a d'autres lieux, d'autres villages qui sont sur le cœur de Dieu. Il n'y a pas que Capernaum. Il y a des gens à suivre dans l'Église, à accompagner, mais il y a d'autres personnes à l'extérieur qui n'ont pas de berger. Voilà ce que Jésus nous enseigne au travers de son exemple. Il y a une foule de personnes dans le besoin qui ne sont pas en connexion avec Jésus-Christ. Et il y a une invitation dans l'exemple de Jésus de sortir de ce qu'il connaît, là, de ce qu'il vient de vivre, il s'est passé des choses extraordinaires. On a envie de continuer, mais il y a une invitation, il y a comme un arrachement, parce que ça a dû être dur à entendre, après ce qu'ils avaient vécu, allons ailleurs. Il y a un arrachement de dire, de laisser les 99 brebis qui sont là, qui ont été sauvées, qui ont entendu l'Évangile, et d'aller chercher la brebis perdue, celle-là qui est sur le cœur de Dieu. Il y a d'autres villages, il y a d'autres villes, il y a d'autres lieux qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin d'entendre le royaume de Dieu s'est approché, qui ont besoin de vivre le miracle de Dieu. Et parfois, en tant que ministère, on peut se centrer sur ce qu'on connaît, sur là où on a réussi, sur les gens qui sont autour de nous, sur le lieu où on est. On peut même se centrer totalement sur nous-mêmes, sur l'Église. Nous pouvons avoir même tellement de rencontres, de choses qu'on peut être centré sur nous-mêmes sans qu'on s'aperçoive que nous ne sommes plus en contact avec les brebis perdues. Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et vous glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous êtes d'accord que Jésus prend deux images très intéressantes, le sel et la lumière. Je trouve que Jésus est le plus grand pédagogue de tous les temps parce qu'il a pris une image qui a traversé les siècles, qui a traversé les cultures, qui a tout traversé. Le sel, ça peut être compris par toutes les cultures sur la terre. Ça a traversé 2000 ans d'histoire. Et la lumière aussi. Voilà qu'il prend cet exemple et il dit, vous, chacun et chacune d'ici, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Le mandat, il est quand même pas mal, hein. Et quel est le rôle du sel ? Déjà, la première chose, le sel, pour qu'il donne du goût, vous êtes d'accord qu'il faut qu'il soit en contact avec la nourriture. Ah, s'il n'est pas en contact avec la nourriture, il ne sert à rien. Mais Jésus n'est pas en train de parler de ça, parce que quelque part, c'est évident pour Jésus que le sel doit être en contact avec la nourriture. D'ailleurs, vous savez qu'on mange trop salé, hein, maintenant. On mange un peu trop salé. Donc, il y a un peu trop de sel, parce que voilà. Mais s'il n'y avait pas du tout de sel, bah, je pense que les choses se vendraient moins, tout simplement. On aime ça. Et voilà qu'il dit que si le sel perd sa saveur, parce qu'il est en contact avec la nourriture, mais si on commence à manger un plat et qu'on met du sel, puis que ça n'a pas de goût, que c'est fade, on se dit, mais ça sert à quoi, le sel ? Et je pense, si le sel perd sa propriété de salé, mais avec quoi ça le rend ? Il n'y a pas d'autre solution. La lumière, c'est pareil pour la lumière. Il va prendre l'exemple de la lumière, il va dire, mais une lumière, c'est fait pour éclairer dans l'obscurité, d'être en contact avec l'obscurité. Parce qu'une lumière en plein jour, vous êtes d'accord que ça ne sera pas grand-chose. Mais une lumière dans l'obscurité, c'est ce qui éclaire. Même une petite lumière, Seigneur, je suis une petite lumière. Mais dans l'obscurité, on la voit. Et voilà que Jésus n'est pas en train de dire que la lumière ne doit pas être en contact avec l'obscurité. Mais il dit à l'Église, si la lumière, elle est mise sous un boisseau, elle est cachée, alors qu'elle devrait briller dans les ténèbres, à quoi ça sert ? Si la lumière perd sa propriété d'exercer, de faire voir dans l'obscurité, alors aujourd'hui, il y a trop de lumière. Il y a trop de sel, il y a trop de lumière. Parce que maintenant, c'est la pollution lumineuse, on veut faire éteindre les devantures, il y a trop de lumière pour les animaux, tout ça. Donc, on est dans l'excès aujourd'hui, c'est notre société. Mais c'est vrai, quand il fait vraiment noir, et puis que vous devez marcher dans le noir, vous êtes content, même si c'est une petite lumière, mais vous êtes, c'est merveilleux. C'est vrai qu'il y a une invitation à l'Église à ne pas perdre la propriété qu'elle a. Parce que si l'Église ne fait pas ça, si l'Église perd sa saveur, si l'Église cache sa lumière, à quoi sert l'Église ? Qui va le faire ? Mais c'est notre mandat intrinsèque. C'est le mandat de l'Église. Nous sommes le vecteur de la voix de Dieu dans la société. Nous sommes le vecteur de l'amour de Dieu. Nous sommes porteurs de quelque chose qui a du goût et qui peut aider des gens qui en ont besoin et qui peut faire la différence. Nous sommes vecteurs d'une lumière qui éclaire pour des gens qui tâtonnent, qui ne savent pas où ils vont, qui sont en perte de sens. Nous sommes le vecteur d'un message extraordinaire qui est le message du pardon des péchés et de l'amour de Dieu, du Père qui veut retrouver la communion avec ses enfants. Qui va le faire si on ne le fait pas? Qui, si l'Église perd cette propriété-là, qui va le faire? C'est tellement important de se retrouver le dimanche matin, de louer le Seigneur, de se faire du bien, de dans sa présence. Mais si on garde cette présence de Dieu pour nous, toute la semaine, jusqu'à dimanche prochain, et qu'on ne la libère pas dans des lieux où ils ne connaissent pas cette présence de Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de ce que le Seigneur nous invite à vivre? Il y a une invitation, comme Jésus, à aller plus loin, à dépasser le cercle où il est, à sortir de nos murs, à aller vers ceux qui n'ont pas connu cette présence de Dieu, cet amour de Dieu, loin de nos lieux de culte et de nos rassemblements. Jésus parcourait toute la Galilée. On voit que par la suite, et on le voit dans Matthieu 4, dans différents textes, dans Marc 3, on voit que plein de villes sont citées dans déjà la Galilée. Il est parlé de la Décapole qui est au-delà, il est parlé de Jérusalem, de Judée, au-delà du Jourdain, dans Matthieu 4, verset 25. Dans Marc 3, il est dit que l'évangile se répandait dans l'Idumée, c'est le pays d'Édom, au sud-ouest de la mer Morte, dans les environs de Tyr et Sidon, c'est plus au nord. On voit que déjà ça se répand en Galilée, mais ça va au-delà. L'Église est la semence de Christ. On est appelé à ensemencer au-delà du lieu où on se trouve. Même au-delà, d'abord dans notre cercle d'amis, d'abord là où Dieu nous a placés, d'abord dans notre culture et au-delà. Nous sommes appelés à ensemencer au-delà de nos murs. Et la définition d'ensemencer, c'est qui a reçu des germes. Ça m'a intéressé, j'ai vu ça dans le dictionnaire. Il y a cette idée de nouvelle pousse, quelque chose de nouveau. Et vous savez qui c'est qui a appelé le germe dans l'Ancien Testament? C'est Jésus. Il est annoncé dans Ésaïe 11, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et le rejeton, le germe, le netzer, de ses racines fructifiera. » Et Jésus, il est venu comme ça. Et d'ailleurs, netzer, ça a donné Nazareth. Jésus, il est venu comme ça, comme un petit germe, comme une nouvelle pousse, quelque chose de nouveau qui a commencé dans son propre village et quelque chose qui a commencé à grandir, à se répandre. Et ça commence toujours comme ça, l'œuvre de Dieu dans notre vie. On nous parle toujours de changer le monde, mais déjà, changeons déjà nos vies, changeons notre entourage, et il y a quelque chose qui grandit comme ça dans notre vie. Des nouvelles pousses, et nous sommes appelés à amener ces nouvelles pousses dans ceux qui nous entourent et ceux qui nous écoutent, et dans nos vies. Nous avons tous reçu Christ, et nous pouvons tous partager ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu ne nous demande pas d'être le meilleur message. Dieu ne nous demande pas d'être un bon enseignant. Dieu nous demande juste de partager ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, nous pouvons tous et toutes le faire. Dieu nous demande juste de retransmettre ce qui nous a bénis, ce qui vibre, ce qui travaille en nous, ce qui est à l'intérieur de nous. Et on va le faire avec notre identité, notre façon de faire, notre sensibilité, notre culture suisse même. On va le faire, on va l'apporter avec notre couleur. Il y a certains qui vont, ça va être explosif, certains ça va être plutôt discret, mais de toute façon, Dieu nous invite à redonner ce que nous avons reçu. C'est le principe de l'Évangile. Dimanche passé, j'ai lu un verset que j'aimerais vous relire ce matin. Je terminerai avec ça. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, ou qui sont en train de devenir nouvelles, parce qu'il y a un processus dans notre vie. Mais je pense que le départ, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un n'est pas en Christ ce matin, tu peux l'être. Mais je pense que la majorité, nous connaissons Christ. Donc, c'est le départ, ce verset nous parle à tous et nous concerne tous et toutes. Et voilà ce qui est dit après. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On parle beaucoup des cinq ministères, on parle beaucoup de plein de choses, beaucoup de choses, mais il y a un ministère qu'on a tous ici, c'est le ministère de la réconciliation. C'est notre premier ministère. On l'oublie des fois, mais Dieu veut le faire avec nous. Il a mis en nous tous et nous tous la parole de la réconciliation, parce qu'on l'a déjà vécu. On ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas vécu. Mais si on a connu la réconciliation avec Dieu, on a quelque chose que personne ne peut vous enseigner, que personne ne peut vous enlever, que vous pouvez donner. Et c'est comme un cri du cœur. C'est comme un cri du cœur. Et pour atteindre cet objectif que nous avons tous, Jésus nous offre son exemple ce matin. Il nous montre le chemin. Il nous dit, premièrement, de l'écouter, de se mettre à part. Tout commence dans la prière. Tout commence dans ce cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce qui est aussi sur le cœur de Dieu? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux dire à telle personne, dans telle situation, dans tel ministère? Pour mieux discerner où Dieu veut nous envoyer. Et vous savez, ce n'est pas évident quand tout va bien. Quand vous êtes dans votre ministère, vous exercez, vous avez du fruit dans votre ministère, comme Jésus à ce moment-là. Et c'est plus difficile de partir quand ça va bien que quand ça ne va pas bien, vous êtes d'accord? Jésus, il est parti quand ça allait bien. Des fois, ça ne va pas bien, on dit « Ah bon, Seigneur veut me rediriger parce que la porte se ferme. » Non, peut-être que tu dois persévérer. Mais c'est plus difficile de partir quand ça ne marche pas. Et on voit que pour ça, on a besoin de discerner. Parce que humainement, on ne partirait pas. Ça marche trop bien, c'est super. Mais Dieu t'invite à aller plus loin, à aller à un autre endroit. Écoutez Dieu. C'est le béaba, on est d'accord, on le sait, mais c'est tellement difficile de le vivre, c'est tellement difficile d'entendre Dieu, tellement difficile de prendre du temps avec lui dans toutes ces multitudes de sollicitations dans lesquelles on est et de ce qui nous entoure, les pressions humaines, la foule. Vous savez, dès que Dieu nous parle, il y a une opposition qui se lève, toujours. Quand Dieu nous dit quelque chose, il y a un combat qui se met en route. Et l'opposition ici, c'était, et le danger, ça aurait été de rester pour Jésus. L'ennemi veut tout faire pour nous arrêter et il est malin. Il est malin. Il veut dire, mais non, tu es fou de tout arrêter. Ça marche bien. Tu es fait pour ça. Ça peut être des responsables d'église qui disent, mais non, on ne peut pas te libérer pour faire ça. Non, parce que tu vois, il y a tellement de besoins dans l'église. Tu vois, tellement de besoins. Regarde toutes les situations. On ne peut pas te libérer maintenant pour aller faire ça. Non, 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 non. Il y a cette pression qui est là. Et bien sûr que des fois Dieu nous appelle à ça, mais des fois Dieu nous appelle à autre chose. La pression. Laissons vraiment les pressions du Seigneur nous diriger. Et bien sûr, il y a aller. Aller. Les besoins dépassent notre bergerie. Aller. Il y a une invitation à s'arracher. Il y a une invitation à sortir de la zone de confort. Non mais imaginez, les 99 brebis, qu'est-ce qu'elles étaient bien. Le berger était bien avec elles. Mais il a dû s'arracher de sortir pour aller chercher celle qui était prise dans les ronces, qui était je ne sais pas où. Ça a dû lui coûter de partir là où ça se passait bien pour aller à la recherche de celle qui est perdue, celle qui est loin du Seigneur, celle qui souffre seule et qui est prise dans les ronces, que personne aide, mais qui est sur le cœur de Dieu. Et Dieu veut déposer ça sur nos cœurs. Amen. Seul Dieu sait où sont ses brebis perdues. Et il veut le faire avec chacun d'entre nous, avec toi, avec moi, avec nous. Dieu veut nous conduire vers elle. Et pour cela, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut s'arrêter. Il faut s'arracher à notre zone de confort et obéir à sa voix, pas à pas, marcher selon la voie du Saint-Esprit jusqu'à trouver celle qui a besoin d'être secourue, de la prendre sur les épaules et de rentrer avec la joie dans le cœur. Vous savez, il n'y a pas de plus belle joie que de sauver quelqu'un de la mort, de la situation dans laquelle elle est. Il n'y a pas plus de la joie du salut. Il n'y a pas plus de belle joie à vivre sur terre. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Tu es l'exemple parfait. Et ce matin, tu nous invites pas seulement à dire « on a vécu un bon temps, c'était une bonne prédication, ça m'a fait du bien », mais tu nous invites à entendre ta voix ce matin. Et Seigneur, qu'on puisse, en tant qu'Église, plus que jamais, prendre ces temps où tu nous conduis, où tu nous diriges, où tu veux nous amener. On a tellement besoin de ta direction. Seigneur, viens parler dans nos différentes saisons de vie, dans nos différents appels. Toi seul connais chacune de tes brebis ici ce matin. Merci de nous conduire, conduire ton Église. Tu reviens bientôt et tu as encore bien des brebis perdues que tu veux sauver. Alors merci Seigneur, je suis tellement réjoui de voir toutes ces personnes qui sont là, toutes ces potentialités, toute cette diversité, toutes ces manières d'approcher celles qui sont sur ton cœur. Alors Seigneur, viens faire grandir en nous ces pousses, ce désir tout à nouveau, et de ne pas nous faire éteindre par toutes les